J'ai une question pour Marc, peut-être Alan de Vibe. De Vibe, je sais pas comment. Il est souvent dit du côté flamand, enfin, vous avez une image de que c'est beaucoup plus structuré en France, que c'est que l'accompagnement est beaucoup plus renforcé. C'est pas forcément l'impression qu'on a non plus de l'autre côté. Après, il y a, j'ai trouvé des images assez fortes qu'on a en France et on ne voit pas pour le coup en Belgique. C'est qu'on voit pas les donc, par exemple sur Amiens. On voit alors, je présentais, il y a Vincent ici dans la salle qu'on voit dans le documentaire et Sylvain Moustache que j'ai vu tout à l'heure qui est ici. Et on les voit devant, face au groupe, très présents. Du coup, là, il y a une présence très très forte de l'accompagnateur, mais qu'on ne voit pas forcément à l'image. Et je ne sais pas du coup si c'est aussi des façons que vous avez, vous, d'intervenir auprès des groupes. Mais on voit du coup qu'il y a beaucoup le mot de liberté, donner beaucoup de place au groupe et au projet du groupe. Du coup, voilà, ça ressort, mais ce n'est pas forcément... voilà, moi, je me pose la question et je ne sais pas du coup comment ça fonctionne. De votre côté, est-ce que c'est une vraie différence? Vous percevez une vraie différence entre les deux ou pas?
Je pense que Mich l'a dit dans son interview, Mich de Kreun, Wilde Westen, que quand il y a des résidents chez eux, par exemple, ils vont pas se mettre dans la salle et dire au groupe il faut faire ça ou ça sur scène. Ils laissent beaucoup plus de liberté, je pense. C'est une approche différente, je pense. Mais en même temps, je vois que, enfin, il y a des différences bien sûr, mais il y a aussi des similarités. Par exemple, je pense que tout le monde veut entretenir un lien personnel avec le groupe et répondre aussi aux besoins spécifiques de chaque groupe, parce que chaque groupe a sa spécificité. Donc je pense que ça, c'est quand même un fil rouge dans l'accompagnement. Ce qui est différent, je pense, chez nous, c'est le repérage des groupes. Je pense qu'il y en a plusieurs dans le reportage qui ont parlé de Vibe, du plateforme, et c'est peut-être un peu le moment de laisser la parole à Alan, et de comme ça il peut expliquer ce que eux ils font et ce que la plateforme représente.
Merci, c'est sympa. J'ai remarqué une grande différence par rapport à la France, c'est qu'il y a différentes plateformes côté régional surtout. Pendant que chez nous en Flandre, on a une grande plateforme qui s'appelle Vibe. Enfin, avant on était Popunt, mais on a changé à Vibe parce que on veut élargir en fait aussi les personnes avec qui on travaille. Donc maintenant notre plateforme est aussi devenue le nom de notre organisation parce que ça clochait tout ça. Et donc en fait, ce que moi j'ai remarqué surtout, tout est un peu très local, pendant que nous on a un site web où il y a toutes les opportunités pour les artistes, où ce qu'ils peuvent s'inscrire, comme avec la résidence chez Wilde Westen, ou par exemple s'inscrire. Il y a par exemple un programmateur qui cherche un artiste pour le bouquet, ils s'inscrivent sur notre site web, ils font un profil, c'est environ même style de MySpace, on va dire comme ça, où ce que l'artiste peut mettre ses coordonnées, ce qu'il fait comme musique, une bio, des photos, des vidéos et tout ça. Et donc, de ça, en fait, ils s'inscrivent plus facilement. Et donc, par après, c'est aussi une manière de rencontrer d'autres artistes et voir, en fait, qu'est-ce qui se passe côté Flandre, côté artiste, mais aussi côté chances, opportunités, des résidences, passer à la radio, quoi que ce soit, en fait. Et tout ça, on essaie de faciliter via notre plateforme même. Et puis, par après, on a aussi une équipe qui donne des conseils. Et puis, par après, nous, on est côté projet. Donc, moi, ce que j'en fais partie, ou ce qu'on essaie de soutenir, enfin, les artistes locaux, amateurs, semi-pro. Et c'est ce qu'on fait en fait en général. Je pense que c'est ça la plus grande différence de côté nous en tant que Vibe et côté salle de concert que Marc vient tout juste expliquer.
Et du coup, oui. Ça veut dire que techniquement les groupes s'inscrivent, donc c'est que les professionnels ont accès aux infos, mais les musiciens aussi ont accès
tout à
aux
fait.
Infos.
Non, tout à fait. Donc tout le monde a accès en fait. Donc tout le monde peut aussi s'inscrire en tant que particulier. Et donc on a une plateforme qui a, je pense, environ maintenant 21 000. Personnes qui sont inscrites, donc autant des artistes, autant de personnes particulières de tout genre, donc hip-hop, rock, metal, enfin tout le monde peut s'inscrire. Et donc de là, c'est une plateforme en fait que tout le monde a accès pour regarder. Ou même, par exemple, on a aussi un truc qui s'appelle Musicant, Musicien cherche musicien, où ce qu'on peut mettre des annonces par exemple, on va dire, il y a un guitariste qui cherche un groupe, et de là, qui sont des groupes, et pas prendre d'autres projets comme Soundtrack, qui sont aussi passés là tout à l'heure, qui sont aussi des liens, des moments pour rencontrer des gens, mais aussi faire tout ce qui est... Merde, désolé, c'est difficile de travailler en néerlandais, puis de traduire tout ça en français. Mais donc, Talent on Tweaking, tout ce qui est soutien, accompagnement d'artistes et tout ça. Donc, on a différents projets qui se focusent sur ça, en fait.
D'accord. Et du coup, ça veut dire que les salles sont plus ou moins dépendantes de Vibe et de la plateforme, ou est-ce qu'il y a aussi une relation locale, forcément, je pense qu'il y a ce qui
se répète. C'est juste une manière de faciliter les choses et d'avoir une vue, en fait, de tout ce qui se passe, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'artistes qui sont au courant, par exemple, de la plateforme même, parce qu'ils ont demandé des conseils par rapport à leur contrat, ou d'où est-ce qu'ils peuvent prendre, louer une salle pour répéter tout ça. Et parfois, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe localement. Donc, c'est nous aussi une manière, en fait, de partager cette information, qu'on a notre plateforme, que tout le monde peut s'inscrire, de faciliter, en fait, ce lien, en fait, et puis par après, de mettre, en fait, en vue qu'il se passe quelque chose aussi localement, ou ce que d'autres artistes auraient pu aussi prendre accès, mais qui sont encore maintenant pas encore au courant.
C'est un peu en région, il y a un site qui a été monté par l'aéronef qui s'appelle Airbnb Band. Et du coup, qui a aussi une tentative. Je crois qu'il y a beaucoup de groupes dans la métropole. Des réactions du côté français ?
Petite question. Comment vous avez fait pour que les artistes s'approprient à tel point l'outil ? Enfin, moi, je sais que Vibe, c'était un truc en tant que programmateur que j'utilisais énormément, mais vraiment énormément. Parce que, justement, les artistes se sont appropriés l'outil. Et c'était hyper cool en tant que programmateur d'arriver, de dire, tiens, surtout à l'époque où on était sur des projets européens, où il y avait vraiment une volonté de programmer énormément d'artistes flamands dans la salle. C'était easy, quoi. Vibe, c'était vraiment le truc juste un peu parfait, parce qu'il y avait du monde inscrit dessus. Est-ce que tu penses que c'est parce que, justement, il y a une centralisation des différents appels à candidature des salles ou des dispositifs, ou est-ce que c'est juste par la praticité de l'outil, ou est-ce que c'est peut-être une question aussi d'échelle en termes de région?
Je pense pas que je pourrais directement donner la réponse la plus correcte, mais je pense que c'est un mix de tout. Le fait qu'on a une plateforme où ce que tu peux t'inscrire gratuitement, et qu'il y a aussi des opportunités, des chances que les artistes peuvent s'inscrire. Ça peut être une programmation, faire la programme d'avant d'un grand artiste ou quoi que ce soit, ou passer à la radio comme énergie qu'on avec qui, ou aussi qu'on ait des sessions de feedback aussi gratuitement avec des artistes professionnels, donc les gens peuvent aussi s'inscrire. De un, vu qu'on essaie aussi de travailler localement avec des projets qu'on fait comme Local Helder, qui est un jour tout en Flandre depuis 2015, où ce que on met des artistes locaux en avant, même jour tout en Flandre, et on soutient tout ça, et on coordine tout ça. Donc je pense que c'est autant le fait qu'on a un lien aussi local, et autant la plateforme qui est un peu côté Flandre et tout ça, qui fait un bon match, quoi. Parce qu'on est constamment en contact avec les acteurs locaux, on entretient les bons liens, et on essaie aussi d'être toujours les deux pas en avance sur ce côté-là, quoi. De faciliter tout le monde, et puis voilà.
Alors, du coup, c'est Julien, je crois, qui est là-bas, WBM.
Je t'en prie.
Mais c'était juste parce qu'il y a aussi des Wallons dans la salle, et savoir s'il y avait du coup des spécificités après régionales aussi, et que si ça fonctionnait pareil du côté Wallon. Est-ce qu'il y a d'autres réactions du coup sur le contenu, sur les points de vue des artistes?
Bon, alors moi j'ai deux petites questions en espérant qu'elles soient pas stupides, mais bon, si elles sont stupides, tant pis. Je me suis posé la question si on pouvait être accompagné en Flandre si on a un artiste frontalier type sur l'île. Est-ce qu'il y a des liens qui se font, des ponts qui se font?
Je vais laisser quelqu'un qui est en charge de l'accompagnement répondre à cette question.
En fait, non.
Voilà.
Bah, à part du coup Camille de Dynamo, du coup les collègues, dites-moi, mais Tour de Chauffe, qui en fait c'est un dispositif d'émergents, des groupes émergents en métropole lilloise, et il y a un partenariat sur l'Euro Métropole, mais du coup c'est pas non plus tous les artistes flamands ou wallons. Et après non, ça va être des initiatives en fait de structures, soit liées, ouais, comme disait Thomas, à des projets européens, ou parce qu'il y a un... mais ouais, sinon c'est très cloisonné, ou c'est parce que tu vas savoir qu'en fait, il y a un nouveau groupe qui se crée, que dedans, il y a des Français et des Belges, et que peut-être il y a des choses à faire, mais en fait, sinon, je pense que ça n'existe pas.
Après, comme je crois que ce qu'expliquait...
Je vais peut-être compléter, en fait, ouais. Et peut-être mettre les pieds dans le plat. Ce qu'on voit, c'est que aussi les volontés d'accompagnement, parfois, elles sont dictées par des volontés politiques.
des budgets qui sont orientés sur certains secteurs. Du coup, on va privilégier les artistes de ce secteur-là pour les faire progresser sur place. Et effectivement, bah, y a peu de projets qui sont transfrontaliers, qui peuvent dédier des accompagnements d'un groupe belge vers la France, d'un groupe français vers la Belgique. Et là, je pense que c'est une première étape, déjà, ce documentaire, qui aurait dû se faire autrement, avec un échange de savoir, de compétences vraiment humains, et pas uniquement un documentaire. Et on le voit aussi à l'échelle régionale, que certains artistes vont être accompagnés sur un certain territoire, mais les autres n'auront pas forcément accès à ce type d'accompagnement, parce qu'ils sont juste 20 km plus loin, malheureusement. Alors moi, je bosse à Dunkerque, donc je vais laisser la parole.
Alors, un euro métropolitain. Non, mais du coup, alors oui, Nico et Sylvain, peut-être aussi après, je t'impose d'intervenir, parce que tu en parles un petit peu sur la relation avec Mons et Bruxelles, notamment.
Bah, c'est Nicolas de la Cave aux Poètes, ça fait le lien directement avec ce que disait Sylvain tout à l'heure sur « je vais mettre les pieds dans le plat ». Une des problématiques, c'est effectivement le fléchage des crédits qui sont destinés à l'accompagnement. Aujourd'hui, sur l'Eurométropole de Lille, il y a effectivement ce programme Tour de Chauffe où on a vu qu'il y avait un groupe flamand qui était intégré sur la sélection de Tour de Chauffe. Donc c'est déjà une première initiative qui est chouette. Ensuite, il y a un autre dispositif qu'on coordonne à la CAF qui s'appelle Hello Music. Dedans, il y a l'Aéronef, il y a le Grand Mix, il y a la BIC avec le festival Crossroads, il y a Dynamo. Donc c'est 5 groupes qui partaient d'une réflexion de... Il nous manque un étage dans les dispositifs, on va dire, nationaux, régionaux, locaux, qui est le dernier étage de la fusée avant lancement, on va dire, et signature avec des chez un professionnel. Donc on a ce dispositif-là. Après, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que dans ce dispositif-là, on envoie des groupes au MAMA, au Riperban, au Bar en Trans. Et c'est vrai qu'il y a plein de groupes qui ne sont pas de la métropole, qui mériteraient aussi de pouvoir, voilà, de pouvoir y aller. Mais là, après, la question, elle est bassement politique, j'ai envie de dire, quoi. C'est qu'à un moment, il faut juste prendre en compte que la BIC fait ce travail d'export là-dessus, mais que c'est aussi un des acteurs, et que dedans, on ne peut prendre que des groupes qui sont issus de la métropole, parce que c'est la métropole qui paye. Et ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage. Bon, à côté de ça, il y a plein de dispositifs. Et après, pour revenir sur les programmes transfrontaliers, c'est vrai qu'on a eu la chance avec le Grand Mix et la Lune de faire partie, et des quatre, de faire partie d'un gros projet qui s'appelait Ici Musique, qui était vraiment intéressant dans le sens où je pense que la plus grande difficulté pour les artistes accompagnés en France, c'est de jouer à l'étranger. Parce que ce sont des conditions qui sont généralement très différentes. C'est vrai, je me souviens d'avoir envoyé un groupe au Greta Escape. Quand ils sont arrivés là-bas, au bout de 10 minutes, ils avaient au téléphone, ils étaient furieux, quoi. Enfin, ils ne comprenaient pas, quoi. Ils disaient, on nous a acheté un sandwich, une bière à la gueule. On chante dans une discothèque, il n'y a pas de son. Enfin, voilà. Enfin, je pense que c'est parfois le danger qu'on a, nous, dans nos logiques d'accompagnement, c'est l'outil. C'est-à-dire de mettre trop vite des groupes dans des conditions finalement qu'ils vont jamais retrouver en tournée, et alors qu'ils sont chouettes pour travailler artistiquement, mais qui sont pas dans des logiques de tour. C'est pour ça, moi, je dis toujours, les artistes, venez à la CAF, parce que vous aurez toujours mieux ailleurs, parce que c'est une petite salle compliquée. Donc c'est bien, c'est un bon point de départ de le faire comme ça. Et ça, je pense que c'est une attention à laquelle il faut de plus en plus s'habituer, et notamment sur aujourd'hui avec le numérique, et puis les outils qui sont nés pendant le Covid. Il y a des choses dans le projet d'un artiste qui sont devenues complètement capitales. On l'a vu l'année dernière avec Crossroads, les vidéos par exemple d'YN tournées au flow dans le cadre de Crossroads, avec une vraie réalisation artistique. Je pense que ça, mais je pense que Babette pourra en parler. Ça a joué auprès des pros, quoi, quand ils ont eu accès à cette vidéo parce qu'ils pouvaient pas venir au festival. Et on s'est posé déjà cette première question-là, c'est-à-dire on fait un festival avec des pros, mais finalement, est-ce qu'un outil numérique, c'est pas plus intéressant pour les artistes dans le contexte actuel ? Donc ça, je trouve que c'est un point qui est important, hein, là-dessus. Et après, je pense que la deuxième réflexion, elle est davantage de l'ordre... moi, ce que j'aime bien dans la vision flamande un peu de l'accompagnement, c'est aussi le côté très pragmatique. On on est une région où il y a 13 salles, donc si je veux faire une tournée de 40 dates, il faut que je sorte de la Flandre. Alors que nous, on est une région où si un artiste est accompagné, repéré à peu près par toutes les salles, il peut faire 40 dates hein, dans la région et ne jamais sortir de la région. Et on a un peu ce même postulat avec des artistes qui sont fin fond de la Drôme, ou voilà, dans des régions un peu reculées, qui ont des dynamiques d'export et de plus importantes. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui, à travers les projets européens, nous a fait du bien sur le côté très, très pragmatique dans l'accompagnement. Et ça, moi, je trouve que c'est... en tout cas, c'est une richesse, maintenant, quand on accompagne les groupes, de se fixer aussi des objectifs dans leur accompagnement et pas leur développement. Parce que je reviens aussi sur ce qu'avait dit Camille pendant le... Je pense que c'est une notion très importante de qu'est-ce qu'on trouve dans les salles. On trouve de l'accompagnement. Le développement, généralement, c'est les producteurs qui le font. Et ça, ça me paraît essentiel.
Tu vois, tes questions étaient bonnes. Et... Du coup, il y a eu un pied dans le plat. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans le plat, ou est-ce qu'il y a d'autres réactions sur le documentaire, ce qui vient d'être dit? Oui.
Ça veut dire... Bonjour. Quand on parle de résidence...
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Ah, c'est Joseph.
D'accord.
Mon prénom?
Vous êtes artiste
Artiste, oui.
D'accord.
Le terme résidence, ça signifie quoi?
Alors, je vais laisser un professionnel de l'accompagnement répondre. Ou une professionnelle, pardon.
J'étais parti. Marcus, je bosse à l'aéronef. Alors, qu'est-ce qu'une résidence? Pourquoi personne n'a levé la main? Parce que c'est pas simple à répondre, je pense. En fait, c'est surtout le fait d'utiliser une salle ou une scène. Concernant l'aéro, je vais dire un peu ce qu'on fait chez nous en termes de résidence. On va mettre à disposition... notre outil et nos techniciens et notre savoir-faire pour servir un projet artistique, voilà, pendant une certaine durée, pour bosser des objectifs qu'on va définir avec le groupe, souvent concernant une résidence scénique, c'est pour pouvoir se préparer à des dates importantes qui sont déjà bookées pour un groupe, comme ce qu'on fait avec Hello Music et qu'on vient de faire avec The Breakfast Club pour préparer les dates du Crossroads et du Mama et des Transmusicales. Souvent, c'est une étape de boulot pour pouvoir présenter le meilleur des shows possibles par la suite. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu? Ah ben ça dépend des moyens techniques des salles. À l'aéronef, nous on peut pas. Enfin, ou alors faut booker de l'hôtel, ça se fait. Hein. Quand on a des résidences de groupes nationaux, ils viennent, ils bloquent toute la semaine, ils logent dans les hôtels à côté de l'aéro. Mais il y a aussi d'autres salles qui proposent des moyens de logement et ce genre de trucs. Ouais. Chacun a des moyens différents.
Dixmude, c'est plus ou moins... c'est assez rural, donc il n'y a rien autour. Donc c'est vraiment un endroit où on peut travailler en toute tranquillité. Et c'est pour ça que les gens aiment bien rester là pour une semaine, par exemple.
Nous, on s'occupe d'un projet qui s'appelle les secrets de session, avec Marcus qui est là aussi derrière. Et du coup, c'est très spécifique, mais en gros, on fait bosser des artistes ensemble, pas forcément des groupes en entier, mais des gens qu'on va prélever comme ça, des groupes pour un temps de création qui est assez éphémère. Mais l'idée, c'est de provoquer des rencontres, en fait. Et du coup, ça va durer 3 jours. Et là, en général, on prévoit aussi de l'hébergement, en fait, parce que les temps informels dans ces temps de création, ils sont hyper importants. Et nous, c'est un projet qu'on aime beaucoup parce que ça, en général, ça fait des petits, en fait. C'est un peu ce que disaient, j'ai plus retenu les prénoms, mais les personnes qui travaillent à Trix à Anvers, que, enfin voilà, c'est assez intéressant de voir que quand il y a des groupes qui travaillent dans, enfin voilà, s'il y a différents espaces de travail dans une salle, ou là spécifiquement nous avec les secrets de session, c'est que ça crée des nouveaux projets, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans la résidence.
Oui, sur le sujet de la territorialité, nous, on est éditeurs et on n'est pas liés à la territorialité de la même façon que la politique locale ou régionale ou euro-régionale ou métropolitaine européenne. On a d'autres dispositifs qui nous permettent d'amener à des groupes à jouer au Japon ou à jouer dans d'autres régions parisiennes, par exemple, ou d'autres, on a d'autres territorialités avec, et on peut accompagner en résidence aussi, notamment en payant les salaires des artistes sur la résidence.
Oui, c'est ce qu'évoquait Nicolas tout à l'heure en disant que l'accompagnement, enfin, il y a la question du développement, et du coup, du côté producteur, de l'entourage aussi de l'artiste aussi qui vient pour travailler sur l'export des projets à un niveau supérieur peut-être, mais que de toute façon, dans cet écosystème-là, bien entendu, il y a des producteurs privés, éditeurs, labels, producteurs phonographiques. Et c'est vrai que là, on a accès le documentaire plus sur... Parce qu'après, on sera allé beaucoup trop loin. Ça peut faire l'objet d'un autre documentaire, on verra. Mais ça peut être intéressant. Là, c'était vraiment sur les... Parce qu'on part d'un projet, à la base, entre des salles, d'échanges entre salles. Parce que historiquement, c'est parti comme ça aussi, au niveau transfrontalier, notamment sur l'ex-région Nord-Pas-de-Calais. Et du coup, sur ces logiques d'accompagnement. C'était vraiment le cœur du sujet. Aussi, pour apporter aux artistes, musiciens et musiciennes, un regard sur ce qu'est, parce que monsieur pose la question d'une résidence, ben, voilà, à quel niveau on se situe quand on a un projet artistique. On peut être très amateur, ne pas avoir d'idée, comme on peut avoir une idée, mais on ne sait pas comment s'adresser, à quel endroit on peut intervenir. Et le deuxième sujet, c'est aussi l'objet de ce documentaire. On ne sait pas encore à quelle échelle on va le diffuser. Je pense que ce serait intéressant d'en parler avec Marc. On en a parlé avec Marc un petit peu, peut-être d'aller le présenter aussi dans les salles qui ont été partenaires là-dessus, et c'est de trouver le moyen, et Nicolas et certaines personnes l'ont dit, de maintenir de l'attention pour trouver le moyen, et ça passe aussi par un soutien politique et par une réflexion collective, et je pense qu'on peut, c'est une amorce, même s'il y a eu des amorces avant, on a quand même du mal à beaucoup maintenir cette relation et à la faire perdurer dans le temps. Donc il y a ce sujet-là qui est très important pour nous, et bien entendu, ça prend en compte aussi tout un écosystème d'acteurs. Et bon, chaque pôle est différent. Nous, on a un pôle qui prend en compte tout ça. Ça évolue. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui, suite au Covid, de vraiment... Il y a cette question du redémarrage pour faire en sorte que les projets recirculent, et notamment les projets émergents. Et c'était d'autant plus important pour nous de faire parler des artistes émergents, parce que voilà, ça va être aussi compliqué pour eux. On parlait des différences entre les régions. Nous, on a la possibilité, je pense à Dynamo, qui a un dispositif pour faire tourner des groupes en région. Mais ils s'exportent très très peu, donc et c'est différent en Belgique, ils ont très ça, donc ils sont obligés de s'exporter. Donc il y a plein, et je pense que ça fera l'objet de beaucoup de discussions cet après-midi, donc on va peut-être pouvoir s'arrêter là. Mais il y a plein de questions, et c'est pour ça qu'il faut continuer la coopération. Donc, je profite, on a des collectivités qui sont présentes aussi. Voilà, on insiste vraiment là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, faut maintenir notre relation, le dialogue entre nous, et ne pas oublier les artistes, les musiciens et musiciennes dans cet écosystème.
Oui, je voulais rebondir. Thomas, Walk This Way, intervenant scénique en indépendant. Je voulais rebondir un peu, nuancer tout ce qui a pu être dit sur les postures aussi d'accompagnement et les différences qui peuvent exister entre la France et la Belgique. Je suis content de voir que Mich parle encore du coaching, un peu comme une peur de voir des projets être transformés par la volonté de celui qui accompagne. Je pense que justement ça a pas mal évolué aussi sur ces questions-là en France, du fait d'une meilleure formation aussi des intervenants, et du fait qu'aujourd'hui, quand on parle de liberté laissée à l'artiste en Belgique, c'est aussi le cas même quand on est sur du coaching scénique ou de l'intervention artistique. On n'est pas là pour déformer le propos de l'artiste ou vouloir le plier à ce qu'on imagine être bankable ou pas, à lui parler de la façon dont il devrait être fringué sur scène. C'est pas du tout le propos d'un bon coaching artistique. C'est plutôt, au contraire, partir de lui, partir de ce qu'il a envie de défendre, et essayer de l'accompagner sur ce chemin-là, en fait, et pas du tout tracer le chemin à sa place.
Elisabeth de Basique, vous avez vu un de mes groupes dans le reportage. Alors moi, je voudrais m'adresser à ceux qui sont chargés de l'accompagnement. Justement, à tous ceux qu'on a vus là et à d'autres. Parce que on vous dit souvent merci, mais je pense que vous n'avez pas conscience à quel point on a besoin de vous, nous qui sommes chargés de développer les artistes, en fait. Alors, parfois, ça peut être frustrant pour vous, parce que vous accompagnez 5, 6 groupes à l'année, et puis, entre guillemets, il n'y en a aucun qui sort, il n'y en a aucun qui perce. Mais en fait, c'est important, même s'ils ne sortent pas de leur région, parce que ça reste des humains, et ce sont des artistes, et ce n'est pas parce qu'un artiste perce au national ou à l'international qu'il n'en est pas moins artiste. Ça leur ouvre plein de perspectives, ça les structure professionnellement, et le moindre petit, parfois, ce sont des petits détails, sur le moment, vous les faites, et vous vous dites, si ça se trouve, ça sert à rien, ben si, ça sert. C'est ce que Nico disait, la vidéo Crossroads à l'époque, catastrophe, Covid, qu'est-ce qu'on fait? On fait vidéo, on fait pas? Ben, ça fait un an que je bosse avec cette vidéo. Donc je l'envoie à des pros, tout le monde me dit, ouais, c'est génial. Ça fait circuler le nom du Crossroads, du groupe. Enfin, voilà, c'est un Marcus. Marcus qui fait écouter YN à un gars de Lisbonne il y a un an et demi. Et aujourd'hui, on se retrouve au 1000 à Lisbonne parce que quand j'envoie la candidature, le gars me dit, mais oui, en fait, on m'a fait écouter, Marcus m'a fait écouter. Voilà, c'est Sylvain qui, comme ça, nous trouve. T'as besoin d'une résidence? Ben ouais, on va te trouver un lieu, t'inquiète pas. Voilà, ce sont des petites choses, mais en fait, si vous ne les faites pas, si vous ne nous aidez pas à le faire, nous, on ne peut pas développer nos groupes et on ne peut pas avancer. Voilà, donc moi, j'ai besoin de vous. Et je pense que tous les autres qui arriveront derrière auront aussi besoin de vous. Mais je voulais surtout vous dire déjà merci, mais surtout, lâchez pas l'affaire, quoi. Parce que parfois, vous pouvez manquer de motivation. Et ça, faut surtout pas perdre ça. Surtout là, après Covid démarrage, on galère, mais non, faut pas lâcher, quoi.
On va prendre deux dernières interventions. Donc Vincent et Camille qui voulaient intervenir aussi.
Vincent, donc chargé d'accompagnement à la Lune des Pirates. J'en profite de l'intervention d'Elisabeth, dire que sur l'accompagnement, en ce qui nous concerne et en ce qui me concerne, on fait l'accompagnement d'artistes, mais on fait aussi l'accompagnement de gens comme Elisabeth, et qui c'est très 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 important dans les territoires, notamment sur nos territoires où on a très peu de structuration, d'entourage professionnel, de jeunes développeurs, jeunes développeuses. On a besoin de gens comme ça. On a besoin de trouver des personnes avec qui travailler. On ne travaille pas simplement avec les artistes. Un artiste a besoin aussi d'entourage professionnel, de gens motivés comme Elisabeth. Et moi, je parle en l'occurrence pour le versant sud de la région où on a un gros déficit justement de ce type d'entourage-là. Et pour le coup, on perd une attractivité de force. On a des artistes qui partent à Lille ou qui partent à Paris et on est en panne de ça. D'où la question, et là je mets les mains dans le plat, c'est justement de trouver des moyens de coopération régionale à ce niveau-là et qui malheureusement pour l'instant n'est pas encore fait. Voilà, il y a un peu d'un côté, si je peux me permettre, le Nord et le Sud. Voilà, nous on est les confédérés. Non, c'est pas vrai. Mais voilà. Et ça serait bien que de temps en temps, sur ce sujet de l'accompagnement, sur ce sujet de l'export, sur ce sujet de partage de ressources, sur ce sujet de... C'est de la politique publique, hein, de toute façon. On ait un ou plusieurs opérateurs et on puisse travailler ensemble à ça. Parce qu'on travaille pour des musiciens, on travaille pour des gens comme Elisabeth, on travaille pour le public, pour que ces musiciens puissent rencontrer le public. Et parfois, ça peut nous manquer. Voilà, merci.
Je voulais nuancer un peu tout ça, parce que l'accompagnement, ça fait pas tout, en fait, et qu'on se retrouve aussi avec des groupes qui ne veulent aussi que de l'accompagnement, qui, même avant même d'avoir joué, en fait, veulent être accompagnés. Et je trouve que il peut y avoir un peu un cercle vicieux, en fait, avec l'accompagnement. Alors effectivement, ça sert beaucoup et quand tout le monde est derrière un groupe, on voit que ça sort de la région. Mais il y a un moment donné, ça c'est aussi beaucoup d'argent public et on sait aussi très bien qu'il y a des groupes qui passent pas du tout par des dispositifs d'accompagnement et qui percent. Donc voilà, c'est juste à nuancer parce que je pense que du coup maintenant, quand on est un jeune groupe, avant on voulait forcément aller être signé sur un label. Maintenant, on veut un accompagnement et que je tremble. Mais que du coup, enfin voilà, en fait, ça, c'est pour ça que je pense que c'était bien qu'on reparle d'épanouissement de la pratique, parce qu'en fait, et c'est pour ça que je disais que c'est pas du développement, c'est qu'à un moment donné, on est là pour aider à passer des étapes, à déclencher des déclics chez eux. Mais il faut que eux-mêmes en fait soient en capacité de s'autonomiser à un moment donné, et c'est pas forcément, enfin voilà, ouais, c'est à eux en fait aussi de d'être maître de leur destin et de leur parcours d'artiste en fait. Voilà.
Merci Camille, merci pour vos interventions. Je pense que c'est des très bonnes interventions pour entamer la discussion, le premier temps d'échange à 14h sur les différences justement d'accompagnement entre les deux pays, parce que je pense qu'on fonctionne assez, une structuration en France qui est assez similaire, même s'il y a des différences entre les salles au niveau des, parce que c'est territorialisé aussi et qu'il y a des questions qui sont très territorialisées, on peut le voir avec l'intervention de Vincent notamment, mais voilà. Donc j'espère que vous allez bien travailler cet après-midi. Il va ressortir plein de choses. Donc on vous tiendra informé de l'évolution, de la diffusion du documentaire. Voilà. Donc on doit avoir quelques petites choses à refaire, et puis je pense qu'on fera un partage en présentiel et sur les plateformes numériques. Très très prochainement. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Et puis je vous invite à au pot avec des boissons et des petites friandises. Et n'hésitez pas à en profiter pour votre repas, parce qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup.